Le journal, Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Des créneaux spéciaux pour les personnes prioritaires. La solution de Jean Castex pour renforcer le dépistage, malgré l'embouteillage dans les laboratoires. Pas suffisant, disent les scientifiques, vous l'entendrez. Pas de confinement généralisé, mais des préfets qui vont devoir bouger à Bordeaux, Marseille et en Guadeloupe. En rouge vif sur la carte Covid, bars et restaurants fermés plus tôt peut-être. Une étude américaine nous dit que ce ne serait pas si mal. Dans le reste de l'actualité, les gilets jaunes de retour dans la rue, les incendies en Californie, les pires qu'on ait jamais vus, nous sommes sur place en direct. Et puis le Tour de France, tous les espoirs français s'envolent, coup de massue hier avec l'abandon de Romain Bardet. Le tennis aussi et du Black Lives Matter à l'US Open, on verra tout ça dans notre page sport.
Le prochain invité à 8h20, ce sera le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini. Question ce matin sur un mouvement qui prône un grand rassemblement entre partis. Nous verrons à quelles conditions.
France Inter. Les hospitalisations en hausse, c'est une situation qui se dégrade, alerte hier le Premier ministre Jean Castex. Pour autant, pas de confinement généralisé, pas de mesures fortes, à part la réduction de la durée d'isolement à 7 jours. Et puis, cette annonce, le renforcement du dépistage. Vu les embouteillages dans les laboratoires, le gouvernement veut réserver des créneaux horaires pour les personnes prioritaires, les symptomatiques, les cas contacts et les soignants. Pas convaincu, mais alors pas du tout. Lionel Baran, le président du syndicat des jeunes biologistes, il le dit à Hélène Chevalier.
Prioriser, c'est effectivement important et c'est déjà ce qu'essayent de faire les laboratoires. En revanche, ce qui a été proposé en disant qu'il fallait une file pour les patients symptomatiques et l'autre file pour les patients asymptomatiques ne règle absolument pas le souci. Pourquoi ? Si on n'a pas d'éléments objectifs pour dire qui est symptomatique et qui n'est pas symptomatique, qui est-ce qui trie ? Est-ce que c'est les secrétaires des labos qui vont dire au monsieur de la file symptomatique, attention, un nez qui coule, ce n'est pas un symptôme ? Est-ce que les personnes qui vont voir une petite file urgente symptomatique, est-ce qu'ils vont pas se mettre dedans en disant ils ont un peu mal à la tête, le nez qui coule, etc. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tout simplement une priorisation sur la base d'un élément objectif, c'est-à-dire d'une ordonnance médicale. Ceux qui ont une ordonnance médicale passent en premier, ceux qui n'ont pas d'ordonnance médicale passent ensuite selon les disponibilités. Donc malheureusement, on attendait beaucoup plus des annonces du gouvernement et du ministre de la Santé, et je ne pense pas que, en pratique, cela change grand-chose dans nos laboratoires, si ce n'est ajouter un stress supplémentaire à notre personnel qui est déjà sur les rotules, que ce soit physiquement ou psychologiquement.
Et pendant ce temps, le rouge s'étend sur la carte. 42 départements aujourd'hui où le virus circule activement. Particulièrement touchés, Bordeaux, Marseille et la Guadeloupe. Dans ces zones, les préfets devront présenter lundi leur plan d'action. La Guadeloupe qui n'a pas attendu, dès ce week-end, les établissements publics comme les gymnases, les piscines ou les salles des fêtes seront totalement fermés. Les bars et les restaurants devront baisser le rideau un peu plus tôt. À propos des bars et des restos, voici une étude pas très rassurante et qui nous vient, Sophie Becherel, des États-Unis.
Cette étude émane des CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, une agence fédérale qu'on peut comparer à Santé publique France. Elle conseille les autorités américaines. Les experts ont questionné un échantillon de 300 personnes venues se faire tester dans 11 hôpitaux américains cet été. La moitié était positive, l'autre négative. Les questions ont porté sur ce que ces personnes avaient fait dans les 14 jours précédant les symptômes. Êtes-vous allé faire les courses ? Avez-vous fréquenté des endroits où plus de 10 personnes étaient présentes ? Au bureau, chez le coiffeur, à la salle de sport, à l'église, au restaurant ou au bar. Avez-vous pris les transports en commun ? Portiez-vous un masque ? Résultat d'étude, le masque a été porté de façon équivalente par les deux groupes. En revanche, les personnes contaminées étaient deux fois plus nombreuses à être allées au restaurant et dans une certaine mesure au bar que les personnes testées négatives. L'étude n'a pas permis de différencier l'intérieur et l'extérieur. Elle devra donc être complétée. Elle plaide en tout cas en faveur du port du masque comme protection efficace contre les gouttelettes chargées de virus, voire les particules plus fines. Plusieurs études tentent a prouvé que l'air simplement exhalé par une personne contaminée peut être un vecteur de contagion.
Le masque, justement, en question dans les Bouches-du-Rhône, le préfet va devoir préciser les zones à forte densité où il est obligatoire. Son arrêté a été jugé trop vague par le tribunal administratif hier soir. Les conséquences économiques cette fois du Covid. Prêt à aller jusqu'où pour garder son emploi ? Les 81 pilotes de Ryanair sous contrat français ont fini par accepter une baisse de leur salaire de 20% au moins pendant 5 ans. C'était ça où le licenciement. Justice sociale, justice fiscale. 2 ans après la naissance du mouvement, les revendications n'ont pas changé. Les gilets jaunes retrouvent pavés et ronds-points. Manifestations un peu partout en France, plusieurs rien qu'à Paris aujourd'hui. Un mouvement que Chantal à Moissac, près de Toulouse, souhaite pacifique. Elle qui a monté une association citoyenne, elle raconte à Stéphane Iglesis.
Alors au niveau du mouvement, au départ à Moissac, on faisait des rassemblements le samedi où on avait beaucoup de monde. Ensuite, on a eu interdiction de continuer à monter sur le rond-point. J'avais certains matin, on est venu dans les manifestations à Montauban, on est allé sur Toulouse. Ensuite, il y a un an, avec d'autres gilets jaunes, nous avons créé des assemblées citoyennes. Il y a 15 jours, on a eu validation de notre association, qui est citoyenne, je tiens bien à le dire, et gilets jaunes du Tarn-et-Garonne, où on appelle tous les citoyens à venir échanger lors d'assemblées générales et de mettre toutes nos idées en commun pour des actions pacifiques. Comme là, cela nous a permis de déclarer un rassemblement pacifique, où on a pris des engagements auprès de la préfecture. Voilà, c'est pour avoir des moyens de mieux communiquer, de pouvoir faire porter notre parole.
La manifestation des gilets jaunes interdite à Toulouse à cause du Covid, interdite près des Champs-Élysées à Paris cette fois pour des questions de sécurité. On voit bien que ce retour des gilets jaunes met déjà les forces de l'ordre sous pression. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis des grenades de désencerclement moins dangereuses, moins puissantes.
L'actualité, Hélène, c'est aussi Charlie Hebdo, à nouveau menacé.
Dans sa revue, Al-Qaïda évoque les héroïques frères Kouachi et sous-entend que d'autres attaques pourraient se préparer. Republication des caricatures de Mahomet avec l'ouverture du procès des attentats et donc, encore une fois, Charlie Hebdo menacé, d'où la protection renforcée de l'équipe Charlie. Hier, dans la salle d'audience, pas moins de 5 officiers autour de Riss. À l'autre bout, en Syrie, il y a des enfants français détenus dans les camps qui meurent de faim, de soif, de mauvais traitements. Les laisser, c'est indigne de notre état de droit. Une tribune dans le journal Le Parisien ce matin pour demander leur rapatriement. Tribune signée par plusieurs parlementaires, Clémentine Autain, Raphaël Glucksmann ou encore Yannick Jadot. Un rapatriement qui se fait encore aujourd'hui au cas par cas, avec au total moins d'une trentaine d'enfants rapatriés. Un ciel rouge apocalyptique autour de San Francisco et une couleur blanc pâle hier au-dessus de Paris. Des particules de cendres qui ont traversé l'Atlantique. C'est dire l'ampleur des incendies qui ravagent en ce moment l'Oregon et la Californie. 1,5 million d'hectares de terres brûlées. C'est plus que toute l'Île-de-France. Bonjour Benjamin Hilly.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial. Vous roulez depuis plusieurs heures dans ce nord de la Californie. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est ce paysage qui défile? Racontez-nous.
Alors juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ces incendies, j'ai donc roulé de San Francisco à Oroville au nord aujourd'hui, à plus de 3h30 de route et sur des centaines de kilomètres, donc les fumées présentes partout. Ça ressemble à du brouillard, mais non, ça sent le brûler et ces fumées à l'approche d'Oroville sont encore plus denses, chargées en cendres quand on arrive à Berry Creek, cette vaste zone forestière défigurée désormais. On voit des arbres brûlés sur des pans entiers de collines, tout est noirci et dans le ciel, le soleil est rouge, des maisons ont disparu comme avalées par les flammes, les voitures calcinées en bord de route se comptent par dizaines et c'est ici, dans le comté de Butte, que les autorités recensent déjà 10 morts. Alors forcément, le gouverneur de Californie devait faire le déplacement et c'est ici que Gavin Newsom est venu désigner la responsable.
Nous sommes en pleine crise climatique. Nous faisons face à des conditions météo jamais vues. Nous faisons face à ce que tant de personnes avaient annoncé il y a des dizaines et des dizaines d'années. Mais tout ça maintenant, c'est la réalité.
Alors le gouverneur évoque bien sûr la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années en Californie, les records de chaleur de l'été. Il a fait jusqu'à 49 degrés près de Los Angeles. La Californie qui a déjà vu 10 000 km² de son territoire partir en fumée, c'est historique.
Un demi-million de personnes évacuées également. Merci Benjamin Hilly en direct du comté de Butte dans le nord de la Californie. La gouverneure de l'Oregon, elle mise sur la météo, un peu d'humidité, moins de vent dans les jours qui viennent, comme un peu d'air dans la fournaise. Bahreïn est devenu hier le 4e pays arabe a normalisé ses relations avec Israël. Le rêve pour les conservateurs israéliens et américains qui ont toujours cherché à obtenir des pays arabes qu'ils reconnaissent Israël sans qu'un État soit pour autant créé pour les Palestiniens. Des Palestiniens qui dénoncent un coup de poignard dans le dos, accord qui met aussi l'Iran ce matin très en colère. 4 ados qui tombent sur un trésor. La grotte de Lascaux fête ses 80 ans. Aujourd'hui, évidemment, c'est une réplique qu'on peut visiter, car il faut bien sûr la protéger, cette grotte. Mais pour ceux qui ont pu voir l'original, Lascaux, ça reste gravé là et à tout jamais, raconte Yves Coppens.
J'ai eu la chance de retourner à Lascaux un certain nombre de fois. C'est vraiment une pièce artistique de très très grande qualité, toute période confondue. C'est aussi que c'est une grotte qui n'est pas très grande et qui est vraiment couverte de gravures et de peinture. Ça a été peint probablement par un maître et son atelier, et son école. Donc c'est un ensemble qui est très homogène, très cohérent, très uniforme. dôme. La grotte est, disons, stabilisée. Elle reste très fragile. En tout cas, il n'y a plus de dommages en cours dans Lascaux. Et Lascaux a été merveilleusement conservé. Le rapport dont je me souviens, c'est un rapport direct avec les préhistoriques. Je ne souhaitais pas partager du tout avec mes parents qui m'accompagnaient. Et j'étais ébloui et je rencontrais ces Cro-Magnons pour la première fois, et je m'en réjouissais dans ma petite tête et mon petit cœur, à moi tout seul, sans partage.
Une petite tête, Yves Coppens. La passion du paléontologue au micro de France Bleu Périgord. Enfin, ce n'est pas cette année que les chasseurs dégommeront la tourterelle, pour paraphraser Renaud. Décision du Conseil d'État à l'ouverture de la chasse. La tourterelle des bois a diminué de près de 80% en 15 ans. Interdiction donc cette saison de tirer sur l'oiseau sauvage.
À 8h10, on passe au sport.
Le Tour, 14e étape aujourd'hui avec le Slovène Primoz Roglic en jaune. Mais hier, quelle journée de malheur pour les Français. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour.
Tous les espoirs de voir un Français en jaune se sont envolés et on n'avait plus l'habitude.
Oui, ce tour est cruel pour le public français qui n'en finit pas de voir ses champions dégringoler. Premier jour, chute de Thibaut Pinot. Le franc-comtois ne s'en remettra pas. 4 jours plus tard, la bourde de Julian Alaphilippe. Il saisit un bidon tendu par son cousin dans les 20 derniers kilomètres, interdit par le règlement. La sanction lui coûte le maillot jaune. Qu'à cela ne tienne, les supporters changent de cheval pour soutenir Guillaume Martin et Romain Bardet. Jusqu'ici dans l'ombre, le duo s'accroche au meilleur. Les audiences s'affolent, mais hier, tout s'effondre. Guillaume Martin n'a ni les jambes ni l'équipe pour suivre les meilleurs. Sur ses terres, Romain Bardet, lui, vit un calvaire. Il chute lourdement, manque de perdre connaissance, remonte sur sa machine, termine l'étape héroïquement avant d'être pris de vomissements à son arrivée à l'hôtel. Bilan, une commotion cérébrale et un abandon, son premier dans le Tour. Pour la première fois depuis 5 ans, le cyclisme français n'a plus de prétendants au podium après 2 semaines de course. Alors, il est trop tôt pour en analyser les raisons. Le long confinement a-t-il joué un rôle? On peut simplement constater que les adversaires ont changé de nature. Après le long règne des Britanniques, ce sont les Slovènes et les Colombiens qui se partagent le gâteau.
Jérôme Cadet, merci à vous. 14e étape donc tout à l'heure, 194 km entre Clermont-Ferrand et Lyon. 2 cols, celui de la Biche et celui de l'arrivée au Grand Colombier, placé en huis clos hier par le préfet de l'Ain. Pas de spectateurs donc, l'Ain qui fait partie des 14 nouveaux départements en rouge sur la carte du Covid. Encore un duel de géants, mais là ça va se régler sur l'eau. Armel Lecléache, Yann Eliès, qui sera le vainqueur de la solitaire du Figaro cette année? Eh bien tout va se jouer sur la 3e étape Dunkerque-Saint-Nazaire, départ tout à l'heure 17h. Et puis à propos de Covid et de sport, voici les basketteurs de la NBA qui vivent depuis près de 2 mois maintenant reclus dans une bulle sur le site de Disney World en Floride. L'un des joueurs des Houston Rockets n'a pas respecté le protocole sanitaire. Il a osé inviter une personne extérieure. Et bien, il a été exclu sur le champ. Ça ne rigole pas à la NBA.